Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 29e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler de recherche opérationnelle et vous allez constater que ce terme assez énigmatique recouvre bon nombre de problématiques liées à notre quotidien. Pour en discuter, nous recevons Jean-Charles Billot, professeur d'informatique à l'École Polytechnique de l'Université de Tours. Jean-Charles Billot, bonjour.
Bonjour.
Qu'entend-on par recherche opérationnelle ?
Alors, la recherche opérationnelle est une discipline scientifique à la jonction des mathématiques et de l'informatique. Elle vise à fournir une aide à la décision pour résoudre des problèmes donnés et elle s'appuie sur une modélisation mathématique. Alors le terme « recherche opérationnelle », c'est un terme qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était les premières applications de la recherche et donc sur le terrain des opérations. Et les premières applications concernaient l'implantation optimale des radars de surveillance.
D'accord. Et quels sont les domaines d'application de la recherche opérationnelle aujourd'hui ?
Alors, la recherche opérationnelle est utilisée dans de nombreux domaines. Je mentionnerai, pour exemple, le domaine de la production industrielle, où les premiers problèmes abordés concernaient la gestion scientifique des stocks, avec des calculs de quantité optimale de commandes, l'optimisation de la production, l'ordonnancement d'ateliers, où là, on va définir les séquences de tâches pour minimiser les retards de livraison ou minimiser les quantités d'encours dans l'atelier. Donc ça sont des problématiques assez anciennes et plus récemment on s'intéresse à la gestion de la chaîne logistique où là on va intégrer les fournisseurs et on va aller jusqu'à la livraison au client. Il y a aussi le domaine des transports qui est très utilisé. Par exemple, une société comme la SNCF va chercher à construire des horaires robustes, donc le moins sensible possible aux aléas, optimiser l'utilisation de tronçons en cas d'incident. Donc ça sont des problématiques ferroviaires. On a aussi du transport aérien, les problématiques dans le transport routier, dans le transport urbain, tout ce qui concerne les ramassages scolaires, les collectes de déchets, etc. Et puis aussi, on a de très nombreuses applications dans les réseaux de communication, de télécommunications et dans les réseaux informatiques.
Bien. Et quels sont les enjeux de la recherche opérationnelle ?
Donc la recherche opérationnelle est une discipline qui a énormément progressé ces 30 dernières années. Pour donner un ordre d'idée, un problème qu'on pouvait résoudre en un an, en 1980, on peut le résoudre en quelques secondes aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le nombre d'applications possibles de la recherche opérationnelle et les performances des méthodes ont augmenté considérablement. Donc aujourd'hui, on a des applications dans de très nombreux domaines qui sont émergents, et puis on apporte des solutions d'une qualité de plus en plus grande.
Vous parlez de domaines émergents, quels sont-ils ?
Alors les domaines qui émergent, ça va être par exemple le domaine énergétique avec l'optimisation de la consommation d'énergie. Ça peut être des problématiques de développement durable et de chaînes logistiques inverses, autrement dit de gestion des retours des produits, donc de recyclage. Ça peut être des problématiques de logistique humanitaire, donc dans le cas de sinistres comme un tsunami, un tremblement de terre, quelque chose comme ça. Et puis de très nombreuses applications aussi dans le domaine de la santé, avec des problématiques de logistique hospitalière, d'optimisation des blocs, ou globalement d'optimisation des ressources au niveau d'un hôpital.
Très bien. Donc la recherche opérationnelle permet de résoudre de nombreux problèmes dans des domaines très variés, mais quels sont les outils qu'elle utilise justement pour résoudre ces problèmes ?
Quand on est confronté à un problème qui peut être abordé par des techniques de recherche opérationnelle, la démarche se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape de modélisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à établir un modèle mathématique qui va être le plus proche possible de la réalité, donc le plus proche possible du problème qui nous est posé. Et donc ça passe par une phase de discussion, plusieurs phases de discussion avec les personnes qui posent le problème, pour identifier très clairement les informations dont on dispose, donc les données dont on va pouvoir disposer et qu'on va pouvoir traiter, les contraintes qu'il va falloir intégrer, c'est-à-dire les éléments qui font qu'une solution, par exemple, n'est pas viable, et dont il faut absolument tenir compte, et puis identifier aussi et surtout les leviers, c'est-à-dire les variables de décision, donc les éléments qui permettent de trouver une solution au problème.
Et est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret pour clarifier tout ça ?
Oui, alors par exemple à Tours, nous travaillons dans le domaine de la logistique hospitalière. Donc à Tours, il y a plusieurs hôpitaux qui appartiennent au même centre hospitalier régional universitaire et qui sont sur différents sites géographiques. Les plateaux repas sont fabriqués à un seul endroit, donc il va falloir les livrer dans les autres sites, dans les services, à peu près aux mêmes heures, puisque les repas sont quand même pris à peu près aux mêmes heures partout. Il y a le linge, par exemple, qui est le linge propre et le linge sale qui sont ramassés dans tous les sites. Il y a la distribution des médicaments par la pharmacie. Il y a tout ce qui est stérilisation, tout ce qui est archives, donc gestion des dossiers. Donc il y a plusieurs flux qui circulent entre tous ces sites hospitaliers. Et le problème, c'était de redéfinir pour toutes ces tournées des horaires dans les services, de sorte à fluidifier les livraisons, éviter les encombrements de véhicules au niveau des hôpitaux. Et puis, il s'agissait aussi d'estimer les effectifs nécessaires pour mettre en place une équipe de manutention sur Bretonneau, qui est un site particulièrement important à Tours, et pour lequel il y avait des véritables problèmes de stationnement.
Donc, l'hôpital fait appel aux spécialistes de recherche opérationnelle. Et ensuite, comment ça se passe?
La première chose à faire, c'est de savoir exactement quelles sont les informations dont on dispose. Et qu'est-ce que la personne veut? Est-ce qu'elle veut qu'on calcule de nouveaux itinéraires? Est-ce qu'elle veut qu'on l'aide à dimensionner ses effectifs? Est-ce qu'elle veut savoir s'il faut acheter des camions, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments à bien clarifier. Est-ce qu'on connaît exactement les quantités de produits à livrer dans chaque unité de l'hôpital? Ou est-ce que ça, il va falloir mettre 6 mois d'enquête pour pouvoir mettre ça au point? Est-ce que ça, ce sont des informations dont on dispose ou pas? Donc il y a énormément de choses à mettre à plat avant de pouvoir commencer à aborder un problème. Et souvent, les personnes, quand elles viennent nous voir, ne savent pas forcément bien identifier les informations dont elles disposent, qu'est-ce qui ressort plus des contraintes ou des objectifs.
C'est-à-dire?
Par exemple, il y a 10 personnes qui travaillent. Alors est-ce que ça, c'est un nombre dont il faut tenir compte? Ou est-ce que 10, c'est une contrainte, il ne faut pas dépasser? Ou est-ce qu'il faut faire en sorte que ça tourne avec le moins possible de personnes? Est-ce que ça fait partie des données? Est-ce que ça fait partie des contraintes? Est-ce que c'est dans l'objectif? Donc ça, c'est un travail de discussion qui se fait avec la personne qui pose le problème pour bien faire la distinction entre les données, les contraintes, les variables. Et derrière, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et à partir du moment où, avec ces données et ces contraintes, on réussit à établir un modèle réaliste, que fait-on du modèle?
Alors ce modèle, si c'est un modèle qu'on a bien écrit mathématiquement, j'ai envie de dire, on l'écrit sous forme d'un programme linéaire. Et là, pour le résoudre, il y a plusieurs pistes possibles. La première piste qu'on va envisager, c'est d'aller chercher des logiciels qui existent sur le marché. Alors ces logiciels implémentent des techniques génériques, donc de résolution de problèmes par la programmation linéaire. Alors l'avantage, c'est qu'en général, ils sont performants. L'inconvénient, c'est que comme c'est des logiciels du marché, ils peuvent être chers. Sinon, on peut utiliser des logiciels libres. Eux sont évidemment gratuits, mais par contre, bien souvent, ils sont quand même un peu moins performants. Donc parfois, ils ne vont pas suffire. Et puis, s'il n'est pas possible de prendre un logiciel du marché ou un logiciel libre, on va développer ses propres méthodes.
Parlons de ces méthodes, justement.
Alors par exemple, on va développer des méthodes arborescentes. Alors les méthodes arborescentes sont des méthodes qui explorent l'espace des solutions de façon intelligente. Donc ça va éviter d'explorer l'ensemble exhaustif des solutions, parce que sinon ça ne serait pas possible, ça prendrait trop de temps. Donc ça, ce sont des méthodes efficaces, c'est des techniques communes d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Sinon, il y a des méthodes de programmation par contrainte, il y a toute la batterie des algorithmes de la théorie des graphes, des méthodes de programmation dynamique qui peuvent s'appliquer dans certains cas, la théorie des jeux, et puis sinon, on utilise des méthodes approchées, donc des méthodes qui vont donner une solution approchée au problème. Alors là, il y a des méthodes génériques aussi, donc par exemple la recherche tabou ou le recul simulé. Et puis, assez récemment, toutes les méthodes de résolution collective de problèmes, on dit aussi des algorithmes évolutionnistes, ou en tout cas d'inspiration biologique, comme par exemple les algorithmes génétiques, les algorithmes à base de population de fourmis, les essaims d'abeilles, encore récemment. Donc toutes ces méthodes vont pouvoir permettre de donner des solutions aux problèmes.
Et dans quel cas choisit-on d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre ?
Ça dépend du problème à résoudre, puisque ça dépend de l'expertise de la personne qui va aborder le problème. Puisque pour certains problèmes, on sait que telle ou telle technique va être efficace ou au contraire complètement inefficace. Donc en fait, on va s'orienter vers les méthodes connues dans la littérature pour aborder les problèmes et qui sont les plus prometteuses en termes de qualité de la solution derrière. Mais bon, ça n'empêche pas d'explorer d'autres voies, d'essayer d'autres méthodes, et puis après de faire des tests et puis de garder la meilleure technique. Mais c'est surtout basé sur une expertise du problème et des outils.
Vous parlez d'expertise, justement. Comment se porte la communauté de la recherche opérationnelle? Est-elle dynamique?
La communauté de la recherche opérationnelle est en plein essor. Le congrès annuel de la Société française de recherche opérationnelle rassemble maintenant systématiquement plus de 400 participants. La conférence européenne de recherche opérationnelle, on est à plus de 2800 participants. Aux États-Unis, c'est plus de 4500 participants tous les ans. Donc c'est une communauté qui est en plein essor. Le nombre de thèses, de postes dans l'enseignement supérieur est également en pleine croissance. Et de plus en plus de formations ouvrent dans le domaine de la recherche opérationnelle.
Pour conclure, quelles sont les limites de la recherche opérationnelle ?
La recherche opérationnelle s'applique particulièrement bien quand on a des informations chiffrées, quantitatives, des objectifs de minimisation de coûts, réduction de délais, diminution de la consommation énergétique, des problématiques comme ça où c'est assez chiffré. Là, on va pouvoir mettre en œuvre des modèles de recherche opérationnelle. S'il s'agit de définir le design d'un tramway pour qu'il soit le plus beau possible, là, c'est complètement subjectif et c'est absolument pas de notre ressort. Par contre, déterminer les horaires du tramway pour qu'il soit le plus efficace possible, là oui, il y a des informations à traiter, il y a un objectif bien précis, et là, on peut mettre en œuvre des techniques de recherche opérationnelle.
Jean-Charles Billot, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.